Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Salut les copains, j'espère que vous allez bien, ici Pauline Néniaud et aujourd'hui je vous emmène comme tous les mercredis en leçon. Pour ceux qui ne savent pas, les leçons c'est 30 minutes à peu près, 20 minutes qu'on passe ensemble, vous et moi, et oui puisque ce sont les personnes qui écoutent le podcast, donc vous qui me posez vos questions, je réponds en direct et j'essaye d'y répondre au mieux. Et d'ailleurs, petit aparté, je ne sais pas si vous le savez, mais je découvre toujours les questions en direct, c'est ça qui rend l'exercice aussi intéressant. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de répondre à la question de Marie, qui est créatrice d'une marque de bijoux qui s'appelle Elema, que je vous invite évidemment à découvrir. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode, qui m'explique que sa stratégie, au final, a pas mal évolué sur les dernières années. Elle pensait uniquement vendre ses produits en vente directe, donc en vente aux particuliers, et puis se rend compte, au fil de l'eau, que finalement, le B2B, donc le fait qu'il y ait des personnes, des entreprises externes qui veulent racheter ses produits, se développe de plus en plus. Bref, elle se retrouve finalement à avoir quasiment 50% de son chiffre d'affaires en B2B, c'est-à-dire via des distributeurs, via du wholesale, ce qui n'était pas du tout ce qu'elle a anticipé. Elle se pose donc la question suivante, comment réussir à faire la part des choses? Quel choix faire entre le B2B et le B2C? Est-ce qu'elle doit entièrement laisser tomber le B2B, qui pourtant lui rapporte du chiffre d'affaires, ou au contraire, doit-elle aller à fond dessus ou essayer de faire les deux? En même temps, j'ai essayé de répondre au mieux à cette question avec Marie, en lui parlant notamment de comment réussir à bien déléguer ce sujet. Et j'espère évidemment de tout cœur que cette réponse la satisfera et vous sera utile aussi aux plus nombreux d'entre vous. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon. Salut Marie.
Bonjour.
Bienvenue sur cette leçon. Ravie de t'accueillir en ce lundi. Marie, est-ce que si tu peux, tu peux commencer par te présenter et puis ensuite me dire quelle est ta question pour moi.
Avec plaisir. Alors, je m'appelle Marie, j'ai 31 ans et je vis à Marseille. J'ai créé mon entreprise il y a 3 ans maintenant, mais vraiment j'ai commencé du début, du bas, et puis ça a grossi petit à petit. J'ai commencé à fabriquer des bijoux donc il y a 3 ans que je vendais d'abord sur le marché. Après, je me suis installée dans un atelier, puis ça a pris petit à petit, et surtout grâce aux réseaux sociaux, puisque c'est comme ça que je me suis fait connaître. Après, j'ai eu un site internet où du coup j'envoyais des produits chaque mois. Ça a pris. Et puis ensuite, on a ouvert une boutique physique à Marseille, puis une autre à Cassis, etc. Et à côté de ça, en fait, il s'est développé une activité, mais dans laquelle je m'attendais pas du tout, et c'était pas du tout ma stratégie de départ. Il se trouve que les boutiques et les revendeurs de bijoux en France, ou même des concept stores, me demandaient régulièrement via Instagram ou via Internet de revendre mes bijoux. Et ça, okay. C'est vrai que c'est un autre marché avec un autre business plan, puisqu'il faut tout recalculer les prix en fonction des professionnels. Il faut surtout que la marge, elle puisse, enfin que notre société puisse soutenir cette marge qui est bien sûr beaucoup moins élevée que si on vend directement aux particuliers.
Bien sûr.
Voilà. Et aujourd'hui, mon chiffre d'affaires, il est vraiment partagé entre les deux, d'un côté professionnel et de l'autre particulier, alors que c'était pas du tout ce que je souhaitais. Et aujourd'hui, je suis un peu dans une impasse, pas dans une impasse, mais je me pose beaucoup de questions puisque je fais pas grand-chose en fait pour développer cette partie professionnelle. Je fais jamais de relance client, je fais jamais de prospection et j'essaye pas trop de leur chercher des nouveautés. C'est un peu malgré moi, on va dire. Et pourtant, ça représente quand même 50% de mon chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, wow. Est-ce que je dois me concentrer voilà, sur cette activité-là et mettre des efforts dessus? Ou alors, est-ce que je fais plutôt ce que je préfère faire en quelque sorte et développer la partie particulière?
Alors, c'est hyper intéressant comme question, Marie. Je te remercie. C'est pas facile. Et en gros, ce que tu dis, c'est que tu fais du wholesale, que le wholesale, bah, forcément, la marge, si tu gardes des prix qui sont proches, en fait, de ce que tu vas proposer en direct à tes clients, elle est forcément bien inférieure. Et que du coup, toi, au niveau de ton business model, c'est pas forcément très intéressant. Mais qu'à l'inverse, bah, ça génère du chiffre. Et ça, c'est, je pense, quelque chose qui a dû arriver à pas mal de personnes qui nous écoutent. Et effectivement, c'est une question hyper intéressante parce que stratégiquement, il faut se poser la question du coup de est-ce que tu privilégies la marge ou est-ce que tu privilégies le chiffre d'affaires ? Moi, j'ai quand même une petite question à te poser avant d'essayer de répondre à ta question. C'est est-ce que les prix que tu proposes en wholesale, justement, tu essayes de faire en sorte qu'ils soient proches de ce que tes clients vont avoir quand ils achètent tes produits en direct ou en fait, est-ce que c'est décorrélé ? Donc, ça, c'est la première question. Et puis la deuxième question, c'est, tu dis que c'est moins intéressant pour toi, ça je comprends complètement, mais est-ce que quand même tu t'y retrouves suffisamment pour pouvoir continuer cette activité ou est-ce qu'en fait, si je comprends bien, les prix que tu proposes en wholesale sont tellement bas que du coup pour toi c'est en fait pas très intéressant?
Alors, pour au niveau des prix, donc oui, dès le début, en fait, quand j'ai créé l'activité, j'ai toujours réfléchi le prix de mes produits avec quelqu'un qui les fabrique, etc. Donc aujourd'hui, il y a toute une équipe. Donc sur le prix, quoi qu'il en soit, enfin, oui, ils ont été réfléchis, en fait, dès le départ pour des professionnels aussi.
Donc, ok, non, super.
Ça colle quand même avec mes prix à moi dans mes magasins. Mais c'est okay. Vrai que j'ai jamais poussé pour que par exemple, mes bijoux ne sont pas marqués. Donc, le revendeur peut aussi appliquer le prix qu'il veut parce que il n'y a pas moyen de me retrouver.
D'accord.
J'ai tellement pas poussé la marque de ce côté-là qu'ils sont un peu libres de faire ce qu'ils veulent. Et je cherche pas forcément la notoriété avec ces bijoux chez les revendeurs.
Ouais.
Donc, ça, c'est la première question. Et la deuxième, donc, c'était par rapport à est-ce que je m'y retrouve quand même? Donc, oui, il n'y a pas de problème, on s'y retrouve. Effectivement, la marge est moins élevée et c'est quand même beaucoup de travail pour une marge moins élevée, mais c'est aussi ce qui fait tourner puisque régulièrement, il y a au moins quelques commandes minimum chaque mois de professionnels qui nous assurent un peu du travail aussi tous les mois.
Exactement. Donc,
voilà, c'est ça aussi, c'est que ça fait travailler mes équipes toute l'année. Certes, il y a des pics début d'année où on va plus fabriquer et ensuite il y a des périodes plus creuses, mais ça permet quand même d'avoir au minimum des commandes professionnelles à envoyer chaque mois à des boutiques.
Ok, et dernière question à ce moment-là. Sur le sujet des prix, etc. Je trouve ça plutôt intéressant en fait d'allier les deux parce que comme tu le disais, bon bah ça te fait du chiffre d'affaires, ça te permet de travailler ton équipe et en parallèle de ça, tu peux essayer de développer ta marque. Si je comprends bien, la problématique principale que tu as, c'est qu'en fait au final, tu te retrouves à plus travailler pour cette partie-là et avoir du chiffre d'affaires sur cette partie-là et du coup avoir moins de temps à consacrer à la création de ta marque, c'est ça?
Exactement, c'est-à-dire que moi je me régale tellement à la développer. Là, on a ouvert une concession à Rennes. Donc voilà, moi je me régale dans la partie développement de la marque Elema, mais moins sur le développement des revendeurs, mais c'est vrai que ça me prend aujourd'hui forcément beaucoup de temps de facturer, de m'occuper après c'est des process et c'est beaucoup d'administratif.
Ouais, bien sûr.
Voilà, je me posais la question de déléguer aussi cette partie-là alors que c'est moi qui l'ai gérée depuis le début.
Bah, c'est exactement ce que j'allais te dire, c'est que j'ai le sentiment quand même que la partie que tu as avec ces clients professionnels, en fait, c'est un chiffre d'affaires qui serait quand même dommage de perdre aujourd'hui. Peut-être qu'un jour, ta stratégie, ça peut être de passer 100% en B2C, c'est-à-dire de parler qu'à des clients directs. Mais disons que dans un premier temps, c'est quand même un bon pied à l'étrier. Ça te permet en fait de sécuriser des ventes tous les mois. Et j'entends bien que c'est du temps que tu consacres pas à ton développement, pardon, de ta marque personnelle. Mais par contre, c'est quand même du chiffre d'affaires. Donc la question pour moi, c'est est-ce qu'une solution intéressante, ça serait pas de continuer dans un premier temps à avoir les deux en parallèle, mais que tu ne te consacres absolument pas à la partie commerciale B2B. Par contre, que tu arrives à former quelqu'un dans ton équipe, voire à recruter quelqu'un qui soit entièrement dédié à ça, et donc en fait dont le job, ça soit de gérer justement les commandes, l'administratif, la facturation, les problèmes de SAV, enfin tous les problèmes qui sont normaux en fait quand on gère tu vois, du commerce B2B, et que toi tu te concentres finalement sur à la fois ce qui t'éclate et probablement là où t'as le plus de valeur ajoutée, parce que je suis pas sûre que la gestion des factures en fait B2B ça soit là où t'as le plus de valeur ajoutée en tant que fondatrice. C'est plutôt en fait sur ok, c'est quoi la prochaine étape pour ma marque, comment est-ce que je la développe, c'est quoi les concessions que je vais ouvrir, c'est quoi les nouveaux produits qu'on va faire. Et donc cette partie plus créative, plus business, probablement en fait il faut que tu la gardes toi. Ça, c'est une problématique intéressante, c'est qu'en fait, se dire, il faut pas forcément arrêter de faire les choses, mais parfois, il faut juste apprendre à les déléguer et à se concentrer là où nous, on a une valeur ajoutée qui est unique, si tu veux. Et en l'occurrence, je suis à peu près sûre que la partie B2B, d'après ce que tu me dis, c'est pas en fait ton cœur de valeur ajoutée, c'est pas ce que t'aimes faire, ça te tombe dessus, tant mieux, tu vois, et autant le garder. Mais par contre, t'es pas obligé de le faire toi. Donc, c'est peut-être ça la solution. Je ne sais pas si tu as quelqu'un dans ton équipe aujourd'hui qui t'aide ou qui pourrait t'aider. Tu penses qu'il y a le potentiel de le faire sur ce sujet ?
Oui, oui, c'est possible. J'ai quelqu'un avec moi qui travaille depuis le début. Donc, ça fait à faire 3 ans qu'elle travaille avec moi. Elle est tout à fait capable de gérer aussi cette partie-là. Mais c'est vrai qu'elle était plutôt côté fabrication. Maintenant, ça peut être d'autres compétences à travailler chez elle, effectivement.
Ton travail à toi d'entrepreneur, du coup, ça va être en fait de réfléchir à l'organisation de ton business. Et je pense que dans un premier temps, t'es pas obligé de te dire non, mais en fait, je vais me concentrer uniquement sur ma marque et du coup, je coupe cette vache à lait, quoi, si je puis dire, qui m'apporte du chiffre d'affaires quand même confortable et si ça se trouve, qui sera un business qui va durer très longtemps et qui continuera à t'apporter avec beaucoup de régularité, qui est quand même quelque chose aussi d'assez appréciable, du chiffre d'affaires. Donc en fait, ton travail, une fois de plus, d'entrepreneur, c'est de réfléchir à la stratégie, de se dire j'accepte encore pendant un certain nombre d'années d'avoir ces deux lignes de revenus en parallèle. Seulement, je sais que ma valeur ajoutée à moi, elle est sur le développement de ma marque. Et par contre, il faut juste que le reste tourne en mon absence. Et donc, il faut non seulement que je forme une personne, mais il faut en fait que je crée certainement une structure ou un processus pour qu'en fait, tout ce que je faisais avant, cette autre personne, ben, sache le faire. Donc, typiquement, il va falloir que tu réfléchisses, que tu prennes un petit peu de temps à structurer, tu vois, ce que tu faisais certainement de manière assez spontanée, c'est-à-dire, comment est-ce qu'en fait je réponds aux mails, tu vois, des personnes qui me font des demandes en 30, c'est quoi les tarifs de prix que je leur propose, jusqu'à quelle marge de négociation est-ce que je peux aller, je sais pas, les temps de fabrication, il faut que ça soit temps. Enfin, en gros, que tu crées, si tu veux, un cadre de telle sorte que la personne qui va te remplacer sur ce sujet ait quasiment tous les éléments en main, il va quand même y avoir une formation en plus, mais qu'elle ait quasiment tous les éléments en main, de telle sorte que assez rapidement, si tu veux, c'est comme si tu l'avais fait toi, tu vois ce que je veux dire? Parce que si tu réfléchis toi profondément à chaque fois que je fais ces deals, qu'est-ce qui se passe et quelles sont, si tu veux, les choses à faire, les choses à ne pas faire, il y a aucune raison que la personne que tu as formée, si en plus elle connaît déjà ta boîte et que vous entendez bien, qu'elle ne soit pas capable de le faire. Parce que ça a l'air d'être quand même plutôt des choses redondantes, avec en fait, une marge d'innovation qui est relativement faible. Et donc, si tu veux, cette personne-là, il n'y a aucune raison qu'elle n'arrive pas à le faire hyper bien, voire certainement mieux que toi, parce qu'elle y consacrera plus de temps.
C'est ça. Ben, c'est comme au départ, quand j'ai dû passer le cap, en fait, de déléguer la partie fabrication que j'avais faite moi-même. Ça a été un gros cap à passer, mais une fois que je l'ai passé, ben, j'avais plus ce temps de fabrication dans mon temps de travail. Et du coup, c'est comme ça que j'ai pu développer tout le chiffre d'affaires à côté. Donc là, c'est un peu aussi ce second cap que j'ai l'impression qu'il faut que je passe, puisque c'est vrai que depuis le début, je l'ai pas dit, mais j'ai quand même 2 commerciales multimarques qui me recrutent des boutiques. Okay. Et c'est vrai que ça, ben, comme elle m'avait contacté moi au départ, ben, c'est moi je suis la seule personne de mon entreprise à avoir le contact avec elle. Ouais. Et c'est vrai que ça, c'est un peu dur à lâcher. Mais bon, si ça s'explique, je suis sûre qu'elles peuvent comprendre aussi qu'une autre personne va prendre le relais autre que moi. Et j'espère qu'elles vont continuer à promouvoir ma marque, même si c'est pas avec moi qu'elles échangent. Voilà.
Bah, je pense qu'il faut que tu réfléchisses à la transition, tu vois, et que tu le fasses. Peut-être que tu organises, je sais pas, une rencontre, un déjeuner, quelque chose, tu vois, pour justement donner toutes ces chances aussi à la personne que tu vas mettre à ta place sur ce sujet. C'est vrai que c'est toujours, les gens ont toujours plutôt envie de traiter avec le fondateur, c'est normal. Mais il y a une réalité, c'est que si tu veux que ton entreprise se développe, tu vas pas pouvoir répondre à toutes les questions de tout le monde, tu vois. C'est comme au début de Gemio, bah, c'est moi qui gérais le service client. Et oui, les gens, je pense, préféraient quand c'est moi qui répondais personnellement, tu vois, à leurs commandes. Mais il y a un moment donné où, en fait, si je veux pouvoir faire en sorte qu'on ait plus de clients et répondre à tout le monde, bah, je vais pas pouvoir le faire moi-même. Et donc, on a été obligé de faire comme ça. Pareil pour Instagram. Au début de Gemio, c'est moi qui répondais à tout. Et puis ensuite, au bout d'un moment, maintenant, c'est plus moi. Ça ne veut pas dire qu'en fait, il faut que tu ne délègue pas en toute conscience, en faisant en sorte que la personne qui va le faire à ta place le ferait comme tu l'aurais fait. Ça, c'est important. Mais pour autant, tu n'es pas obligé de le faire physiquement toi-même. Non seulement tu n'es pas obligé, mais tu as même un devoir en tant qu'entrepreneur d'apprendre à déléguer. Toi, ton rôle d'entrepreneur, si tu veux, c'est plutôt d'aller réfléchir à la stratégie, bien sûr, et de réfléchir, c'est quoi les prochaines étapes, c'est quoi le développement. Donc en fait, tu es toujours dans l'après, tu es toujours dans le futur. Dès que tu commences à avoir des choses qui tournent d'une certaine manière, qui deviennent très répétitives, et je ne dis pas ça de manière dévalorisante pour ensuite tes employés, mais ça veut dire qu'en fait, tu n'as plus de valeur ajoutée à le faire toi. Dès lors qu'il y a un processus qui peut être construit, ton job à toi d'entrepreneur, c'est de l'identifier, de te dire, ok, du coup, c'est ça le processus, la manière dont moi je le ferais, c'est comme ça, de transmettre cette information et cette façon de faire à la personne de ton équipe qui convient, voire à en recruter une, pour que tu puisses te consacrer encore à l'étape d'après, c'est-à-dire au développement de ta marque, l'ouverture de boutique, etc., etc. Il faut jamais que tu t'enfermes, tu vois, dans des tâches qui sont des tâches extrêmement répétitives, parce qu'en fait, du coup, c'est une fois de plus du temps que tu ne vas pas consacrer au développement de ton entreprise. Et en tant qu'entrepreneur et en fait fondatrice, ton rôle, c'est plutôt ça, tu vois.
Et c'est ça. Quand en fait, je fais de la facturation ou que je transforme juste la commande en facture et que je l'envoie au client, j'ai l'impression d'avoir un peu la tête dedans, alors qu'il faut plutôt que j'ai du recul et que j'analyse ou que j'anticipe. Donc oui, je comprends tout à fait ce que tu me dis et ce que tu me conseilles, oui.
Un dernier petit conseil que je peux te donner à ce sujet, parce que c'est quelque chose que je vis beaucoup, puisqu'on est quasiment maintenant 70 chez Gémio, donc j'ai quand même pas mal délégué. J'ai encore des choses à apprendre, mais j'ai quand même pas mal délégué. Une erreur fréquente qu'on fait, je te le dis, j'essaie de te le dire à toi, mais évidemment à toutes les personnes qui nous écoutent, c'est qu'en fait, une fois que tu as identifié que en fait, cette tâche-là, tu l'as déléguée, donc par exemple la facturation, très souvent, le réflexe humain de l'entrepreneur, c'est de se dire « Ok, je trouve la bonne personne, je la forme un peu, et ensuite, je lui passe. » Et d'une certaine manière, on s'en lave un peu les mains après. C'est-à-dire qu'on laisse la personne le faire en se disant « je le délègue, c'est délégué, c'est pris en compte, maintenant je peux me consacrer à autre chose ». C'est vrai et c'est faux. C'est vrai qu'il faut que tu puisses te consacrer à autre chose, mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Et il faut quand même pendant un certain temps que tu continues à effectuer des contrôles réguliers pour t'assurer en fait dans le temps, parce que c'est ça la difficulté, que en fait tes exigences de qualité, la manière dont tu le fais, soient respectées. C'est-à-dire que qui dit délégation dit pas uniquement une formation initiale et ensuite merci au revoir, on se parle plus. C'est formation initiale, tu fais en sorte que la personne a bien compris et ensuite assez régulièrement, tu t'assures si tu veux que la manière dont la personne exécute ce que tu faisais précédemment continue à être conforme à ce que tu aurais fait ou en tout cas que ça te satisfait la manière dont elle le fait. Parce que très souvent, quand on délègue, ensuite, je te dis, on est tellement content d'avoir délégué quelque chose qu'en fait, d'une certaine manière, on fait un peu, tu vois, l'autruche, on met la tête dans le sable et puis on espère que ça va bien se passer. Non, en fait, ton rôle d'entrepreneur, c'est de t'assurer que ça va bien se passer. C'est pas d'espérer que ça va bien se passer. Et donc pour ça, il faut quand même que tu effectues un contrôle régulier. Il y a des chances qu'en fait, ça se passe très bien et tant mieux, tu n'auras pas grand-chose à faire. Mais en général, si tu veux, avec le temps, ce que tu as appris à la personne au début pendant une formation initiale, va potentiellement un petit peu changer et du coup, il faudra, si tu veux, remettre les choses, tu vois, recadrer un petit peu. Et donc, c'est tout à fait normal de le faire, tu vois, assez régulièrement. Je ne te dis pas forcément de le faire tous les jours, mais au début, il faut que le contrôle soit assez régulier, peut-être une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines. Et avec le temps, tu pourras espacer, si tu veux, les contrôles, que ce soit une fois par mois, une fois tous les deux mois, etc. Mais disons qu'il ne faut jamais lâcher à 100% le contrôle. Il faut toujours que tu t'assures que, en fait, la manière dont tu aurais fait les choses quand tu l'as délégué soit celle que tu souhaites. Et ensuite, tout ça est en cascade parce que, bien sûr, par exemple, si ton entreprise se développe, cette personne-là, peut-être un jour, va recruter quelqu'un pour qu'elle-même, elle la forme et tu n'auras pas besoin, toi, d'aller regarder en bas potentiellement, mais il faudra que tu t'assures quand même que ça continue si tu veux à tourner comme tu le souhaites. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut plus que tu fasses les choses toi-même, mais il faut que tu t'assures que la manière de faire correspond à ce que tu aurais souhaité.
Très bien. Mais merci, Pauline, pour ce conseil.
Avec plaisir, je te le dis, parce que une fois de plus, j'ai fait cette erreur à plusieurs reprises. Et puis, je l'ai énormément aussi observé autour de moi, même au sein des managers de mon équipe, tu vois, de se dire qu'ils sont tellement contents, en fait, de réussir à déléguer, parce que c'est vrai que c'est un soulagement. Surtout quand la personne, elle performe bien, qu'elle y arrive bien. Il faut pas quand même oublier que, le temps, forcément, fait que de temps en temps, on oublie, tu vois, certaines choses, qu'on oublie quel était le cadre, on oublie quelle était la stratégie, et que, en fait, la personne va commencer à mettre sa patte sur ce qu'elle faisait. Peut-être que c'est très bien et qu'il faut qu'elle le fasse comme ça, mais peut-être pas. Et il faut juste que tu t'en assures.
OK. Très bien.
Voilà. Bon, bah écoute, merci en tout cas beaucoup pour ta question, Marie. J'espère que tu vas réussir à mettre en place ça rapidement. Comme ça, tu pourras te consacrer à la suite.
Qui m'a l'air, pour la rentrée, normalement, j'espère que je pourrai mettre ça en place.
Génial. Bah écoute, parfait. Et je te dis, concernant les personnes dont tu me parlais, qui sont les apporteuses d'affaires, là, qui étaient en direct avec toi, réfléchis-y, parle-en peut-être aussi avec la personne qui va te succéder d'une certaine manière. Mais je pense que si jamais tu la projettes pas en disant bah merci maintenant tu te débrouilles, mais que tu fais un vrai passage de relais au sens où t'organises une petite réunion, t'expliques la réalité qui est que bah tu peux pas, toi en fait tu veux te consacrer au développement et que tu seras toujours là en dernier ressort, mais que en fait tu fais 100% confiance à cette nouvelle personne que tu vas former et qu'en plus elle sera plus réactive que toi probablement, donc tu vois que tu leur montres que finalement ça a aussi des avantages pour eux que les choses changent. Il y a aucune raison si tu veux que ça fonctionne pas. Et que ces personnes non seulement l'acceptent, mais finalement voient ça comme un bénéfice.
C'est ça, oui. Je leur présenterai, oui.
Tout est une histoire de communication.
Oui, c'est ça. Bon, c'est à distance, mais on trouvera, on fera un petit visio ou quelque chose.
Ouais, voilà. Ne serait-ce que ça, ça peut être sympa. Bon, bah, super. Bah, Marie, merci mille fois pour ton temps. Juste pour nous rappeler quel est le nom de ta marque et où est-ce qu'on peut la trouver. Est-ce que tu peux nous en dire à nouveau deux mots, s'il te plaît?
Le nom de la marque, c'est Elema. C'est tout simplement le mix de deux prénoms, Hélène et Marie. Comme ça, voilà, ça fait un mnémotechnique. Et ouais. Donc, sur Instagram, ça porte exactement le même nom, Elema, et le site internet aussi, elema.fr.
Génial. Eh ben, je vais y jeter un coup d'œil, en tout cas. Je te remercie mille fois, Marie, pour ton temps et pour cette belle question. Et puis, je te souhaite, bien sûr, tout le succès du monde pour cette jolie entreprise et voilà, et ces belles étapes que tu es en train de franchir.
Très bien. Merci beaucoup, en tout cas.
Au revoir, Marie.
Au revoir.
Et voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette leçon vous a plu. J'ai pour ma part passé un très bon moment. Bah, si ça vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à diffuser cet épisode, bien sûr, autour de vous, sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram et j'en passe. Et puis pourquoi pas un peu de bouche à oreille, hein, de vive voix, ça marche aussi. Et puis surtout, si vous souhaitez postuler à une leçon, eh bien c'est très simple. Vous pouvez me contacter sur mes réseaux sociaux, Pauline Legno sur Instagram, sur LinkedIn, Pelegno sur Twitter. Et puis pourquoi pas avec hello@paulinelegno.com. On répond à toutes vos questions. Merci à toutes pour votre attention et puis je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.